Deuxième émission, bouddhisme et brahmanisme, quelques éléments de doctrine. Comment un martinet ou un moineau pourrait-il connaître l'aspiration de la grue ou du cygne sauvage? Si de nombreux épisodes de la vie du Bouddha diffèrent selon les textes, selon les traditions, s'il est même évident que du merveilleux a été rajouté pour impressionner, gardons à l'esprit quelques éléments significatif au regard de la doctrine. Siddhartha Gautama est issu d'une des plus hautes castes de l'Inde, celle qui détient le pouvoir politique. Sa lutte contre les privilèges de la naissance a d'autant plus de mérite et d'effet. La caste sacerdotale, les brahmanes, tentera en vain de diminuer la portée de son message. On connaît. Les plaisirs terrestres ne lui apportent pas le bonheur. Un texte lui fait même dire ceci : je fus gâté, très gâté, je ne me parfumais qu'avec du santal de Bénarès, jour et nuit un parasol blanc était tendu au-dessus de moi, j'avais un palais pour l'hiver, un pour l'été et un pour la saison des pluies, j'étais entouré de musiciennes. Le choix de partir, qui lui est inspiré par la quatrième rencontre, celle d'un moine vagabond, était courant dans l'Inde de cette époque, comme il l'est encore aujourd'hui avec les sannyasins. Le poids du rituel et des règles sociales était tel que pour s'en échapper, le mieux était de partir sur les routes avec un bâton et le pas léger. Mais avant de trouver la voie du milieu, Gautama a poussé la sèse jusqu'à l'excès. L'éveil, la réalisation, ne se font pas par des contraintes, mais par l'acceptation des lois naturelles. Reprenons les quatre vérités qui sont le pilier du bouddhisme. Elles tournent autour du mot dukkha, souffrance, insatisfaction, pourrait-on dire, parce que la vie baigne dans l'impermanence. 1. C'est un constat, la vie est souffrance. 2. Quelle en est l'origine? Réponse: notre soif, nos passions, nos désirs, car rien ne peut les étancher. Chaque désir appelle un autre désir. 3. La vérité de la cessation de la souffrance, faire cesser la soif qui nous entraîne dans un enchaînement sans fin. 4. Alors que faire? C'est la vérité de la voie qui mène à la cessation de la souffrance, la noble voie octuple selon l'expression consacrée et qui implique la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, le recueillement juste. Encore faudrait-il mettre de la substance derrière ces mots, c'est le rôle de la pratique, de la méditation. À partir de cela, les différentes écoles, elles ont été nombreuses au sein du bouddhisme dès l'origine, élaboreront des systèmes de pensée complexes dont on ne peut comprendre la manière d'aborder les mécanismes du psychisme ou les questions philosophiques sans avoir un aperçu du fond culturel de l'Inde de ce 5e siècle avant notre ère. Il faut d'abord remonter loin. Les Aryas sont censés arriver en Inde à partir du deuxième millénaire avant notre ère. Ils faisaient partie de peuples vivant du côté du Caucase, de langues et de structures sociales dites indo-européennes. Ces peuples se sont dispersés, d'un côté vers la Méditerranée et l'Europe, de l'autre vers la vallée de l'Indus via la Perse. Il est amusant, il est même stimulant de retrouver dans le sanskrit des racines qui nous sont communes. Deva, Deus, Dieu. Mana, mince en latin, le mental. Dva, deux, tri, trois. Yoga, qui vient de yug, joindre, et qui donne le joug en français. Dhamma, qui a donné domus en latin, la demeure. Jnana, gnose, la connaissance. Ma, la mer. Vidi, vu, etc., etc. En Inde, les Aryas rencontrèrent une civilisation élaborée, mais sur laquelle nos connaissances restent très incomplètes. La civilisation de l'Indus, qui s'était également développée au Punjab, au Rajasthan et au Gujarat. La civilisation indienne, encore vivante aujourd'hui, est née de cette rencontre, même si l'on ignore ce qui provient exactement de la civilisation de l'Indus. La présence d'une statuette représentant un homme assis en méditation a suscité bien des supputations et alimente encore aujourd'hui, d'ailleurs, la tendance de certains hindous qui voudraient minimiser et même pourquoi pas nier les apports qui venaient de l'extérieur. Bref, le livre sacré des Aryas était le Veda, ce qui a été vu, le savoir par excellence. Il est écrit en sanskrit, possède une longueur qui est 6 fois celle de la Bible. Il comporte des hymnes aux différents dieux, aux différentes puissances. Leur récitation sert au sacrifice. Au Veda s'ajouteront ultérieurement les Brahmanas, les Upanishads, les Tantras, etc. L'ensemble forme un immense corpus. La société est divisée en 4 varnas, que nous avons traduits par castes. Elles sont hiérarchisées selon la pureté qui ne correspond pas forcément à la puissance ou à la richesse. Les Brahmanes, les Kshatriyas, dont est parti le Bouddha, les Vaishyas, qui sont les agriculteurs, et les Shudras, qui sont serviteurs des 3 premières castes. En fait, le système n'est pas si simple. Il faudrait faire intervenir la Jati, sorte de sous-caste, et surtout ne pas oublier qu'à travers le temps et l'espace, l'organisation a évolué. Des croyances également ont été prises dans le mouvement incessant de la vie. Les 33 dieux des premiers textes sont devenus des milliers, tandis qu'Indra, leur chef, sera remplacé par la trilogie de Brahma, Shiva et Vishnu, une entité abstraite, tout du moins neutre, non personnifiée, le Brahman, sera conçu comme un absolu auquel le moi, l'Atman, doit s'identifier en progressant de vie en vie selon le samsara et la loi du karma. Mais voici qu'une apsara, c'est-à-dire une nymphe céleste pleine de grâce et de charme, me souffle qu'un détour est nécessaire. Connaissons ou croyons connaître l'histoire, je mets un grand H, qui d'un bout à l'autre de la planète s'est avancée avec les mêmes passions, les mêmes intrigues, les trahisons, les armées fougueuses, les armées ensevelies. Bien. Mais derrière ce théâtre, les cultures d'Asie et les cultures de la Méditerranée ont conçu sur le temps, l'espace, la mort, et plus encore sur la consistance du moi, des réponses divergentes. Formés que nous sommes par les Hébreux, par la Grèce, par le christianisme, par les Lumières, nous croyons en la réalité du monde, à une temporalité linéaire et à l'existence d'un moi individualisé de la naissance à la mort. Pour comprendre le bouddhisme, il va falloir envisager un autre éclairage, en aucun cas renoncer à ce qui nous a formés, mais admettre la possibilité de conceptions différentes. C'est une secousse. La poésie la pratique, la vie parfois l'impose. Dans des circonstances bien différentes, de 1528 à 1536, Nignez Cabeza de Vaca, s'est rendu à pied du Texas à Mexico, à travers des contrées dont il ignorait tout. Dans la relation de son voyage, il a écrit « Le plus difficile fut de se séparer peu à peu des pensées dont se part l'âme d'un Européen. » Plus loin, il évoque la nécessaire nudité intérieure qui doit être comme celle d'un bébé à naître. Certes, la nudité n'est pas l'impossible tabula rasa, mais une mise à l'écart provisoire de nos vêtements habituels. Le samsara est au cœur de la pensée de l'Inde. C'est le cycle des naissances et renaissances, de la vie, de la mort et du retour, qui s'enchaîne selon la loi du karma. Karma veut dire acte. Le karma nous suit. C'est en fonction des actions, bonnes ou mauvaises, que nous accomplissons au cours d'une vie, que nous renaîtrons dans un état supérieur ou inférieur. Ainsi, au fil des transmigrations, chacun peut-il améliorer sa condition jusqu'à arriver au stade où l'Atman, le moi, se confond avec le Brahman, l'absolu. Encore faut-il entendre l'Atman, non comme un individu, mais comme un flux, et Brahman, non comme un paradis, mais comme le soi universel, l'essence du tout. Pour s'approcher de l'Inde, on pourrait regarder un escalier en spirale après avoir bu 3 whisky. L'enseignement du Bouddha s'adresse à des personnes qui baignent dans l'hindouisme. Il ne va pas rompre avec cette foi admise par presque tous et qui présente des approches multiples conformément à l'esprit de l'Inde. Mais avec patience, douceur et obstination, il va enseigner une voie de libération qui, sur certains points, rompt avec les pratiques admises. 1. Il juge que le rituel n'est pas capable d'effacer les souillures. Seule la noble voie octuple permet de progresser. Il est dit, dans le Sutta Nipata, qui fait partie de la deuxième corbeille du premier canon bouddhique, « Si les ablutions suffisaient à effacer les impuretés, alors toutes les grenouilles et tortues d'eau obtiendraient le ciel. » Deuxièmement, il prêche sans se préoccuper de la hiérarchie des castes. Troisièmement, il refuse de répondre aux questions ontologiques dont débattent les savants dans cette Inde qui aime les spéculations avec une exceptionnelle capacité à manier les concepts et les classements. Un passage, également tiré de la deuxième corbeille, évoque une rencontre capitale. Alors que le Bouddha séjournait au bord d'un étang au lotus, un jeune religieux errant d'origine brahmane, attiré par la réputation de sagesse qui l'entoure, vient s'asseoir respectueusement à côté de lui. Il demande « À votre avis, honorable Gautama, l'univers est-il éternel ? Pensez-vous que cette opinion seule est la vérité, que le reste n'est qu'absurdité ?» Le Bouddha répond négativement. Le jeune brahmane alors de demander « Mais alors l'univers est-il non éternel ? Pensez-vous que cette opinion seule est la vérité, etc. ?» Réponse. Je n'ai pas dit que l'univers est non éternel. Alors les questions succèdent. L'univers a-t-il une limite ou l'univers est-il sans limite? Le principe vital et le corps sont-ils la même chose ou sont-ils deux choses différentes? L'être libéré existe-t-il après la mort ou n'existe-t-il pas après la mort? Ou encore, car pour la pensée indienne, le principe de contradiction n'est pas le même que le nôtre. À votre avis, honorable Gautama, l'être libéré à la fois existe et n'existe pas après la mort. Réponse. Je n'ai pas dit que cette opinion seule est la vérité, que le reste n'est qu'absurdité. À ces questions essentielles, le Bouddha récuse la réponse positive, récuse la réponse négative, la réponse positive et négative, et même la réponse qui serait ni positive ni négative. Nouvelle question du jeune brahmane. Il insiste, on le comprend. « Si vous n'avez pas dit tout cela, honorable Gautama, dites-moi ce que vous avez dit. » Le Bouddha répond alors qu'il enseigne la pureté, la suppression de la souffrance et la délivrance par le nirvana. Il transmet une sagesse, non un dogme. Enfin, quatrième point. Un autre fossé très profond sépare le principe de l'hindouisme de l'enseignement du Bouddha. Il s'agit de la négation de l'atman. Le bouddhisme parle d'un anatman, absence de soi, individuel. Les êtres ne sont que des ensembles de phénomènes psychiques transitoires. Mais alors se demande-t-on, qu'est-ce qui transmigre dans le flux du samsara? Laissons, pour le moment, la question en suspens. Le but est de sortir du samsara en atteignant le nirvana, l'arrêt de tout désir, la délivrance, l'état de Bouddha. Sarnath, la nuit. Le parc des gazelles où le Bouddha donna son premier sermon. Les quatre vérités, la souffrance et la voie de la délivrance. Étoiles, cigales, une légère brise dans les feuilles des arbres dont les branches semblent une protection contre le mystère de l'espace infini. Le stupa est déshabillé par la lune. Des pas. C'est un bonze de Sri Lanka qui se promène, s'éloigne, disparaît, comme des pensées dans la méditation. Le stupa retrouve une majesté, forme pleine, à peine arrondie, symbole du nirvana définitif du Bouddha. Pas de porte, elle est à l'intérieur de soi. Plus loin, sur un étang, des fleurs de lotus. Elles suggèrent beaucoup pour le bouddhisme. Le lotus est pur, mais sa tige puise dans la vase malodorante du fond des mares. Ainsi sommes-nous.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour?
Vous savez, je ne suis jamais venue chanter à Paris parce que je me suis dit ça doit être très bien.